France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Que peut nous apprendre la préhistoire sur notre humanité et comment comprendre les humains du passé en essayant de recomposer leurs gestes? Voilà deux grandes questions qui habitent le parcours scientifique de notre invité. Nous recevons aujourd'hui l'archéologue et préhistorien Jean-Michel Genest. Rien ne semble plus loin à nos yeux de contemporains que les humains de la préhistoire. Pourtant, leurs œuvres d'art et les objets qu'ils ont fabriqués continuent de nous parler de près, de nous émouvoir et de nous interpeller des dizaines de milliers d'années après leur réalisation. En cherchant à retrouver les gestes de ces humains du paléolithique, mais aussi en tentant de relier entre elles les productions symboliques laissées par les sociétés humaines du passé aux quatre coins du monde, Jean-Michel Genest a largement contribué à repenser la préhistoire comme discipline, mais aussi comme période. On va voir avec lui en quoi la pratique renouvelée de la préhistoire au cours des dernières décennies nous permet de mieux nous familiariser avec l'altérité radicale de ces sociétés ancestrales. Le geste et la parole, les préhistoires de Jean-Michel Genest. Bonjour Jean-Michel Genest.
Bonjour.
Vous êtes archéologue du Paléolithique, vous avez été conservateur général honoraire du patrimoine au ministère de la Culture et vous avez été le conservateur de la grotte de Lascaux, mais aussi le directeur du programme d'études de la grotte de Chauvet-Pont-d'Arc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute la bibliographie qui nous a permis de préparer cette émission sur la page de La Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @sciencecqfd. Jean-Michel Genest, les grandes questions qui vont guider notre discussion, c'est finalement ce que cela signifie que d'être préhistorien, le sens ou l'essence que l'on donne aujourd'hui à la préhistoire et comment elle nous éclaire sur notre propre humanité. Vous avez coécrit avec l'archéologue Boris Valentin un livre particulièrement riche et intéressant paru en 2019 aux éditions Flammarion qui s'intitule « Si loin, si près pour en finir avec la préhistoire ». Et nous allons voir pourquoi ce sous-titre un brin provocateur recouvre en réalité un appel à une réactualisation permanente de la discipline et des perceptions que nous en avons. Et pour ouvrir ce dialogue, j'aimerais qu'on ébauche un début de réponse aux grandes questions du jour. Qu'est-ce que la préhistoire? Que signifie être préhistorien? En écoutant la voix d'une personne que vous reconnaîtrez sans doute, Jean-Michel Genest.
La préhistoire est la science qui s'occupe des origines de l'humanité et de son histoire avant l'existence de documents écrits. Les gisements préhistoriques constituent les archives les plus vénérables de notre passé, non seulement à nous Français, mais du passé de l'humanité tout entière. Ils ne doivent pas être gaspillés. L'époque où l'on pouvait faire des fouilles et faire avancer la science en amateur, à grands coups de pelle et de pioche, ramenant, sans aucune observation de la stratigraphie ni d'aucun fait, de beaux objets à mettre en vitrine, cette époque doit être révolue. La préhistoire, aujourd'hui, est devenue, comme l'histoire, comme la physique, comme la chimie, un métier. Et on ne peut pas plus s'improviser préhistorien qu'on ne pourrait s'improviser médecin.
Voilà, vous l'avez reconnu de loin, Jean-Michel Genest, cette voix.
Ah oui, oui, mais ça, du fond de ma mémoire, parce que la voix était loin, je l'ai pas entendue depuis très longtemps. Oui, c'est une personnalité qui m'a marqué, effectivement, avec la qualité de ses fouilles, cet enthousiasme, cette énergie qu'il avait, précisément à parler des objets techniques pour nous accrocher dans les cultures, pour faire vivre ces cultures, justement.
C'était le préhistorien François Borde en 1961 dans l'émission de la RTF Page de Science, et c'est l'un des piliers de l'école de Bordeaux, une école qui a largement contribué à façonner ce qu'est l'archéologie expérimentale que vous avez pratiquée tout au long de votre parcours scientifique, Jean-Michel Genest. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne à la source de cette passion, d'où vous vient ce goût pour le passé lointain, pour les humains du passé et pour leurs objets.
J'ai dû être un enfant comme d'autres qui était fasciné par les objets du passé, par l'énigme qu'ils portent, en ce sens qu'ils ne parlent pas et n'évoquent souvent plus grand-chose pour nous. J'ai été servi par une enfance dans des pays où je marchais régulièrement sur des champs de biface en Afrique de l'Est, puis par une famille qui, étant originaire de la région des Eizis, m'a très rapidement, à l'adolescence, mis en contact avec des préhistoriens de l'Université de Bordeaux et précisément les chantiers de fouilles de François Borde et de Jean Guichard ou de Guy Sellerier pour en citer d'autres. Et là, la fouille, c'est un terrain où il y a une, une agitation intellectuelle autour de la découverte et de la mise au jour de faits qui, au départ, ne parlent pas et qu'il faut faire parler. Et là, les objets jouent un rôle immense.
Alors, on peut dire que vous avez eu la chance quand même d'atterrir et de grandir dans ce vivier préhistorique qu'est la Dordogne en France, où il y a quand même beaucoup de sites majeurs, de sites importants pour comprendre ce qu'est cette préhistoire. Vous avez aussi étudié à une période de grand chambardement, de grand renouvellement de la pensée préhistorique et de ce que signifie que cette discipline, avec des figures comme André Leroy-Gourhan, avec des figures aussi de philosophes comme Gilbert Simondon, qui réfléchissait à ce que signifie la technique. Comment ces figures-là ont-elles inspiré votre entrée en préhistoire?
Parce que, au départ, et c'est une attitude réfléchie et construite, pour évoquer les humanités de la préhistoire, pour rendre de la vie à ces objets que je trouvais particulièrement inanimés derrière les vitrines, que l'on... manipulés avec beaucoup d'envie et de plaisir, il fallait les faire parler et je ne me suis pas orienté vers la paléontologie, l'anthropologie physique, l'étude climatologique. L'objet a été pour moi immédiatement porteur de signification potentielle, parce qu'il faut effectivement le faire parler, mais très rapidement, les chercheurs que je fréquentais à l'époque au cours des fouilles, et vous les avez cités, il y a aussi Jacques Tixier, avaient un talent pour évoquer comment cet objet était arrivé à son état final, c'est-à-dire le processus de fabrication que l'on appelle la chaîne opératoire aussi, et qui est un terme très évocateur, comment du bloc de matière première on arrive à l'objet, et comment ce processus se fait avec une information intellectuelle, un investissement cognitif pour arriver à maîtriser une matière qui est a priori extrêmement rébarbative quand on parle des roches dures. Et c'est là que peu à peu s'est imposée la nécessité de mieux rentrer dans la matière, d'essayer de pratiquer moi-même. Et là, j'ai suivi des personnalités comme Borde ou comme Tixier, effectivement, qui étaient en même temps extrêmement pédagogues avec leur pratique, tout en gardant une certaine distance pour Borde, en tout cas. Et rapidement, au moment de ma thèse, je me suis rendu compte, par exemple, une thèse sur l'homme de Néandertal et ses industries, qu'il fallait disposer d'une référence expérimentale, pratique, quantitative, importante, abondante et incontestable pour essayer de préciser la situation. Et les premiers éléments ont été que cette chaîne opératoire, c'est-à-dire ce processus de fabrication, dans les temps passés, se répartissait entre les lieux et les sources d'origine des matières premières et les endroits où finalement l'objet était abandonné. Et qu'entre les deux, finalement, en retraçant les déplacements à partir des sources géologiques et de la fouille archéologique, on s'est assez rapidement, et j'étais assez heureux de découvrir cela, qu'il y avait des dizaines, des centaines de kilomètres qui s'installaient et que finalement la représentativité de ce qu'on imaginait ou qu'on observé être un processus de production était exceptionnellement complète à un endroit, mais qu'au contraire, elle était répartie dans le temps et dans l'espace. Et cette variabilité spatio-temporelle, c'est un des premiers éléments, une des premières forces de la lecture et de l'analyse technologique où la technique ouvre sur l'économie, ouvre sur le temps, ouvre sur l'espace.
Ça redonne vie finalement et chair à ce qui nous semble très inerte, un caillou.
À partir de là, on voit s'animer ou se mettre en place des éléments, des valeurs et des organisations dans l'espace qui vont tendre à l'approche sociologique, à l'organisation des groupes dans un territoire, par exemple, et non plus à quelque chose qui était statique, c'est-à-dire qui se lisait avec des catégories technologiques typologique d'objets. La forme de cet objet s'appelle un grattoir, un burin, un éclat valois, un biface, j'en ai devant moi là, vous voyez. Mais il faut aller au-delà. Et effectivement, en, en rentrant dans un corps à corps avec la matière, difficile parce que ce sont des longues années et que on comprend pas surtout qu'il y a une quarantaine d'années,
il fallait oser.
Oui, on n'avait pas les références que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas la finesse de lecture, on dégrossissait, on essayait énormément, on balbutiait face à la matière, c'était quelque chose de rébarbatif, mais rapidement on arrivait à voir des approches qui se faisait jour. Je vous ai parlé du temps, de l'espace. Et puis après, c'est l'enchaînement des gestes, l'apparition d'algorithmes réguliers. Et là, se sont mis en place peu à peu une lecture, des possibilités de lecture de l'objet technique qui a beaucoup d'avantages sur d'autres catégories ou faits archéologiques.
Alors, on va décrire, parce que vous êtes venu un peu comme le Père Noël, les bras chargés de cadeaux. Vous avez disposé devant vous tout un tas de types d'objets qui nous ramènent justement dans ce passé lointain, dans ces époques paléolithiques diverses. Je voudrais juste qu'on fasse un tout petit détour par cette archive tout à l'heure, puisque François Borde disait « on ne peut pas plus s'improviser médecin qu'on ne peut s'improviser préhistorien ». Et j'ai trouvé que c'était rigolo, parce que ça fait écho à votre parcours. Vous avez commencé par étudier la médecine, Jean-Michel Genest, et puis vous vous êtes orienté finalement vers la préhistoire, vers ces époques passées. Mais tout de même, comment ces études de médecine ont-elles nourri votre enquête archéologique préhistorique ?
Vous savez, c'est une approche un petit peu pragmatique et banale, et je suis pas le seul. J'ai deux autres, quelques excellents collègues qui ont eu le même parcours. On se dit que dans un premier temps, connaître le fonctionnement de l'animal humain et sa biologie, y compris sa psychologie et ses états intérieurs, c'est un élément fort important pour ensuite comprendre ses comportements, sa motricité, ses capacités techniques, ses capacités cognitives. Et c'est quelque chose de progressif qui s'est instauré. De notre côté, quand on est sur le terrain, sur la fouille, il importe d'identifier les ossements, les mammifères, des restes humains, et puis à côté de ça, des objets techniques ou osseux, etc. Donc c'était un choix raisonnable, raisonné à l'époque, sans plus que cela. C'est utile, par contre.
Oui,
c'est particulièrement utile dans bien des situations. Et ça donne du recul, effectivement, par rapport à l'approche comportementale.
On va décrire ensemble, Jean-Michel Genest, les objets que vous avez apportés, puisque, bien sûr, la radio n'a pas toujours l'image. Elle l'a un peu plus, elle l'a de plus en plus, mais pour les personnes qui nous écoutent, elle n'a pas encore l'image. Mais revenons à l'intérêt, l'importance de ces objets. Vous nourrissez un intérêt tout particulier et une affection forte pour de petites aiguilles en os retrouvées sur le site de la Combe-Saunière, le premier site dont vous avez dirigé les fouilles au milieu des années 1980, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ces petites aiguilles en os, a priori anecdotiques, ont-elles autant d'importance pour vous, au point qu'elles ouvrent ce livre si loin si près pour en finir avec la préhistoire dont je parlais tout à l'heure?
La métaphore de l'aiguille, qui est un petit objet, aujourd'hui encore, un objet délicat qui permet de coudre, d'entraîner un fil, est apparue il y a 25 000 ans, et aujourd'hui on sait que c'est plutôt aux alentours de 30 000 ans qu'apparaissent les premières aiguilles, les aiguilles à chat dans lesquelles on tient un fil, et qui permet de coudre. C'est la métaphore de la capacité que doit développer l'archéologie et les archéologues dans leur pratique à aller voir l'invisible, trouver ce qui est extrêmement discret et pas forcément faire parler les grandes organisations qui posent pas trop de problèmes. De la même manière que les gros objets ont été rapidement identifiés, les bifaces sont connus depuis très longtemps, ça fait plus d'un siècle qu'ils sont collectionnés et rassemblés dans les musées, l'aiguille à chat est apparue tardivement, parce qu'il a fallu la chercher, il a fallu que les fouilles méthodiques dans les sites où ils sont conservés, donc plutôt des grottes, aient été tamisées à l'eau, sous pression, pour obtenir observer leurs petits fragments, les reconstituer, quelquefois avec des fouilles minutieuses, les identifier. Et là, cet objet nous renseigne sur la capacité, par exemple, à coudre avec précision des peaux qui doivent être tannées de manière est relativement complexe et évolué, parce qu'une aiguille à chat ne traversera pas un morceau de cuir important. Et deuxièmement, enfin, cette aiguille à chat permet le confort, assure la sécurité, permet la survie en contexte glaciaire des plus âgés et des plus jeunes, des immatures. Et voilà ce que c'est, ce petit objet. Et aujourd'hui, ce petit objet, il est la métaphore aussi de notre capacité à lire l'inconnu.
À lire l'inconnu et à créer des liens et à nous rapprocher, à nous recoudre finalement avec ce passé lointain.
Bien entendu, coudre le temps présent et le passé, mais en même temps faire surgir de la vie et de l'émotion. Et c'est pas par hasard que je parle des immatures, des enfants, des bébés qui doivent être pris en charge. Et là, il est nécessaire de rentrer dans cette qualité relationnelle et ce type d'information. Et pour cela, il faut que l'archéologie se prête, il faut que l'archéologie cherche en permanence toujours des nouveaux moyens, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes d'analyse, des nouvelles traces et aussi de nouveaux objets, lire de nouveaux objets. On parle des petits objets en os, mais les petits objets en lithique, c'est-à-dire les petites lamelles, aujourd'hui tiennent plus de place que les grands débitages de lames qui, il y a 30 ou 40 ans, étaient fondamentaux et puis nous impressionnaient.
Alors Jean-Michel Jeunesse, là je suis quand même très curieux de ces objets en pierre que vous avez étalés devant vous, en pierre, en os également. Il y a différentes catégories, différentes périodes qui sont représentées. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez apporté dans votre besoin ?
Ce sera rapide, parce que ça va pas être un cours de préhistoire ou de technologie, mais en quelques mots, il y a deux grands groupes, des outillages qui sont ceux des Néandertaliens, et là par exemple un biface et un éclat, et qui illustrent une méthode, un regard sur la matière qui consiste à prendre le bloc de matière première, le transformer et isoler, façonner, fabriquer, sculpter un objet à l'intérieur qui est le biface, qui déjà est un objet extrêmement symétrique, plusieurs plans de symétrique et qui porte une esthétique certaine et qui va accompagner pendant plusieurs centaines de milliers d'années, de 300 000 ans, la vie de Néandertal ainsi que ses éclats qui, eux, sont déjà prédéterminés en ce sens qu'ils ne sont pas débités aléatoirement. Le débitage, c'est cette autre méthode de fragmentation de la matière qui consiste non pas à sculpter un objet à l'intérieur d'un volume de matière, mais au contraire à le débiter, à le fragmenter. Et rapidement, ce qui va faire une des distinctions au début du paléolithique récent, c'est que Homo sapiens va s'attacher beaucoup à la production d'objets standardisés et notamment des objets élancés, des lames comme celle-ci que vous voyez, et qui proviennent de blocs de matériaux qui s'appellent des nucléus, puisque c'est le noyau d'où on va extraire des objets. Et vous voyez que par rapport à la dureté, la difficulté de travail, la résistance de ce matériau, obtenir et vous envoyer les négatifs des lames rectilignes, étroites, régulières, pointues et standardisées dans leur production les unes derrière les autres, nécessitent une connaissance, une expérience et des savoir-faire assez remarquables, puisqu'à partir de ces objets réguliers, qui donc sont standardisés, il sera possible de façonner d'autres objets à l'extrémité, grattoir pour travailler les peaux, burin pour creuser, pointe de projectiles façonnées dans les lames les plus élégantes, les plus minces ou sculptées à l'intérieur. Bref, ces lames ouvrent la voie de la standardisation des produits. Et il y a, à 45 000 ans, la mise en place de ces systèmes de production oriente les industries humaines vers quelque chose qui est une sorte de programmation, d'évolution, de digitalisation vers quelque chose qui va devenir une régularité. Donc, cela illustre que le progrès de ces, ou du moins l'évolution et le développement, parce que le terme de progrès convient pas bien, le développement de ces objets vers la forme laminaire est quelque chose qui ouvre vers la modernité, puisque dans nos outillages aujourd'hui, on utilise ce fonctionnement axial dans nos mains, alors que les Néandertaliens fonctionnaient plutôt dans un geste musclé de pronation et de travail vers soi-même. Donc là, les objets techniques, et c'est ce que j'essaie de montrer, portent en eux-mêmes un avenir. Et ces objets en silex allongés, les lames, permettent de travailler d'autres matériaux, comme le bois de renne, l'os, pour fabriquer une pointe de projectile. Et l'allongement de la pointe de projectile porte elle-même l'idée de la lampe qui lui est associée. Mais ces objets permettent de travailler d'autres types de matières premières.
Et là, vous ouvrez une petite besace.
Et par exemple, magnifique. Les objets en bois de renne ou en ivoire de mammouth fossile, comme cette petite statuette, une Vénus qui vient de l'Espugue, qui est façonnée, mais non pas du tout forcément dans un style naturaliste et réaliste, puisque seul le genre est identifiable, mais avec une modernité qui touche à celle que nous connaissons, outre que cette figure qui est une représentation humaine, avec la tête, l'organisme, le corps, le pagne, est réversible. Et c'est toujours une statuette. Et là, on est dans les représentations animistes des chasseurs-cueilleurs que Philippe Descola évoque sous le terme de multiperspectivisme. Mmh. L'objet représente un individu, un sujet, sous de multiples angles. Et là, on est dans quelque chose qui touche maintenant à l'art moderne. Tous ces développements et ces directions sont présents dans la technique. La technique nous renseigne aujourd'hui, puisqu'on peut la décomposer, en décomposer le processus, sur un passé, mais en même temps, toute technique, à toute période, porte un avenir très clair. Elles sont dirigées.
Elles sont dirigées vers des fonctions, mais ce qui est fabuleux aussi, c'est que cette technique et ce travail d'archéologie expérimentale que vous avez pratiqué, Jean-Michel Genest, en essayant, vous, de votre côté, de reproduire ces gestes, de retrouver ces gestes avec des percussions, avec ces pierres, avec ces pierres qui sont sommaires pour tailler des bifaces. Vous avez même, je crois, constitué à vous seul des gisements en essayant de retrouver ce savoir-faire des préhistoriques. Vous a conduit, et on va le voir dans un instant, à ouvrir la porte du symbolique, de l'immatériel. On va parler dans un instant de ce passage-là. On y vient tout de suite.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre exploration de votre parcours de préhistorien et d'archéologue, Jean-Michel Genest, et on se demande ce qu'est la préhistoire en tant que discipline et comment elle nous permet de comprendre la préhistoire en tant que vaste époque, mais aussi ceux qui l'habitaient et qui y vivaient. Comment cette étude, Jean-Michel Genest, du coup, des objets paléolithiques vous a-t-elle conduit à vous intéresser à l'art pariétal? Et comment, pour le dire d'une autre façon, êtes-vous passé de l'étude du matériel à l'immatériel, du concret au symbolique, pour ces périodes très reculées?
Je n'ai pas finalement changé de méthodologie fondamentale. Il est nécessaire, me semble-t-il, d'avoir des éléments pour faciliter la lecture de certains objets ou faits archéologiques. Il est important d'avoir des bases concrètes, des références expérimentales. Donc toujours en restant sur l'étude des processus de production, de fabrication. Je vous ai parlé de la fabrication d'objets en bois de renne, en ivoire, qui sont des statuettes, qui sont des objets éminemment symboliques, puisqu'ils représentent, mais en même temps, ils évoquent des contenus, des significations importantes. Le passage à l'art, d'abord à l'art préhistorique, à l'art des objets, peut se faire de la même manière sur l'art qui est sur les parois. Et il y a des processus de fabrication. Et l'idée de faire des fouilles dans les sites archéologiques est quelque chose qui n'a pas toujours été pratiqué, mais qui apporte beaucoup d'informations, puisqu'on peut partir du principe que devant une paroi, des artistes qui vont sculpter, travailler, peindre, vont abandonner des traces que l'archéologie pourra retrouver. Ça peut être un fragment de peinture, un morceau de pinceau, des gouttelettes d'ocre ou de manganèse, etc. Mais c'est aussi aborder les œuvres, ainsi que le font beaucoup d'archéologues aujourd'hui et les personnes avec qui je travaillais dans l'équipe de la Grotte Chauvet, proposer aussi une lecture des œuvres en produisant et se mettant dans les conditions de produire à nouveau les œuvres et analyser toutes les traces qui sont sur la paroi et qui documentent le processus de réalisation. Dans une grotte comme la grotte Chauvet, c'est un immense plaisir parce que la paroi est restée molle. Donc vous imaginez que les personnes qui étudient des œuvres qui sont faites à fresque, avec les empreintes de doigts, le raclage, etc., tout a été enregistré. Mais malgré tout, dans des sites où la paroi reste dure, on a de l'information. Bref, avoir une base concrète permet de faciliter, dans un premier temps, la lecture des œuvres. Et une fois la lecture enrichie, on a un corpus de connaissances qui n'est plus du tout le même que celui que l'on a quand on regarde spontanément une œuvre d'art, parce que dans ce cas-là, on se retrouve, au contraire, confronté à quoi ? Eh bien, avec notre connaissance du monde contemporain, et de l'art contemporain, et des arts récents. Et on n'est plus investi de la même façon dans l'objet d'art, ou dans le contexte, dans le milieu de la production de l'art, qui a 10, 15, 20, 45 000 ans.
Ce que je trouve amusant, c'est que finalement, pour comprendre et pour ébaucher l'esquisse d'une compréhension de l'art pariétal, il ne faut pas regarder la paroi ni le plafond peint, il faut regarder par terre, il faut regarder dans ces objets.
Il faut regarder tout autour, il faut avoir la conscience qu'une production, que ce soit d'un objet en silex ou que ce soit d'art, se fait dans un contexte social et que dans ce contexte social, tous les ingrédients et toutes les composantes sociales sont à l'œuvre. Et là, je suis quasiment en train de paraphraser ou de citer Gilbert Simondon quand il parle du milieu associé à la production technique. Aujourd'hui, dans le passé, à toute époque, il y a un milieu associé. Et pour aborder ce milieu associé, on peut le documenter en tant que tel et réfléchir à ce qu'était le contexte de vie, le mode d'existence de ces populations pour considérer et regarder à ce moment-là l'œuvre réalisée, par exemple l'animal paléolithique peint autrement, si on se met dans la place d'un chasseur ou si on se met simplement dans la place d'un historien de l'art.
Alors on va plonger ensemble, Jean-Michel Genette, dans l'une de ces grottes que vous connaissez pour ainsi dire sur le bout des doigts, la grotte de Lascaux. Écoutez cette archive de 1948. On y entend le journaliste Michel Droit dans l'émission de la chaîne parisienne intitulée « Ce soir en France », reportage aux grottes de Lascaux.
Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Elle est là devant nous, comme je vous l'ai dit, en forme de rotonde. C'est une rotonde de chaos rocailleux, de pierres de couleur ocre dans l'ensemble, un peu argileuse. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture absolument étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroque peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délier et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de rennes, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, et que l'on retrouve également en même temps quelques débris de céramique de certains peintres fameux d'aujourd'hui, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation ?
Ça, c'est une question importante et que provoque quasiment systématiquement ce genre de visite de grottes préhistoriques. Moi, je vous invite toutes et tous qui nous écoutez à vous rendre dans n'importe quelle grotte encore accessible, comme la grotte de Niau. Moi, par exemple, à titre personnel, ça a été un vrai choc. Et surtout, ce qui m'a traumatisé d'une certaine façon dans cette expérience du salon noir de la grotte de Niau, c'est cette sensation que les préhistoriques étaient passés il y a 15 minutes pour faire ces bisons, ces chevaux. C'est ce qu'évoque aussi Michel Droit dans cet archive. Comment on explique cette sensation, Jean-Michel Genette, de proximité avec ces gens qui ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années ?
Eh bien, il y a deux grands ensembles d'éléments qui jouent spontanément, c'est que nous sommes des sapiens comme eux. Nous avons le même cerveau et le même dispositif pour créer des émotions. Et notre système visuel nous ravit en regardant effectivement de l'art, même si c'est un art animalier. Et après, il faut prendre un peu de recul pour se dire que voyons-nous. Et à ce moment-là, on est obligé de se pencher sur les travaux des archéologues comme Leroy Gourhan qui ont transformer cette observation de l'animal en statistique pour nous dire « Ah oui, mais finalement, parmi tous les animaux représentés, il n'y en a guère qu'une petite quinzaine qui sont là. Le cheval est toujours le premier, le bison toujours le dernier, le second. Et puis, vous trouverez plutôt les félins, les carnivores, les ours à la fin ou les rhinocéros. » Donc, ce sont des symboles. Ce qui n'est pas évident, en ce sens qu'ils sont figurés, avec des relations extrêmement naturalistes, ils sont organisés dans un espace, ils sont cadrés, ils ont un sol, ils ont les pieds qui appuient, on a des animaux qui ont des postures interindividuelles, des relations interspécifiques, donc on a tous les éléments de la vie, mais on a un choix symbolique intentionnellement fait par ces populations. Et là, c'est cela qui nous émeut. Mais on est déjà rentré dans le processus d'analyse sociologique. On va pas toujours pouvoir pousser très loin en se disant « Mais que signifie ce langage des formes ?» Puisque pendant une longue période, pendant au moins 15 000 ans, mais c'est plutôt 20 000 ans, on a une stabilité des systèmes de représentation formelle de ces animaux qui sont presque toujours figurés en contour, sélectionnés, avec beaucoup de détails anatomiques, qui sont organisés linéairement dans des grottes, sur des parois, souvent dans le monde souterrain. Pourquoi dans le monde souterrain? Que sont-ils allés faire dans le monde souterrain, si ce n'est justement isoler ces figures du monde vivant, du monde de la lumière, où coexistent les espèces vivantes? Et là, on est bien dans un processus de création, tout comme aujourd'hui, on va au cinéma ou dans la salle de théâtre, qui est sombre, dans cette abstraction, où là, on peut faire vivre les idées.
Pour donner une idée, Jean-Michel Denest, de cette permanence, il faut dire qu'en 1948, donc Lascaux a été découverte en 1940, elle a été datée à moins 18 000 ans, grossièrement. On n'avait pas encore découvert la grotte Chauvet, qui a été découverte en 1994. Grotte Chauvet, ça a 36 000 ans, donc il y a 18 000 ans entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux, et il y a 18 000 ans entre Lascaux et nous. Donc ça perturbe quand même pas mal les esprits de se dire que...
Bien sûr, parce que quand on le date, on voit qu'on a une permanence, d'abord dans le temps, extrêmement long, de ces formes, de cet art. Il ne faut pas oublier que quand... une petite anecdote, au moment de la découverte de la grotte Chauvet, les archéologues, les premiers qui sont rentrés, disent « Ah, c'est du genre de Lascaux, ça doit avoir à peu près l'âge de Lascaux, dans l'entour de 20 000 ans. » En fait, Lascaux a 23 000 ans aujourd'hui, effectivement. Et non, pas du tout. Donc, on est absolument trompé par l'apparence et la stabilité. Mais il faut effectivement aussi se dire qu'on est dans un monde, et le monde paléolithique n'évolue pas et ne se développe pas, ne se développait pas à la vitesse de celui que nous connaissons, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas la puissance et la présence démographique qui est la nôtre aujourd'hui. Il y avait peu d'individus entourés d'une multitude d'animaux, d'une multitude de vivants autres que des humains. Et à ce moment-là, cela explique certainement le choix de ces symboles animaliers et la relative absence, pour la figuration équivalente, d'humains à représentation naturaliste. Quand il y a des humains, ce sont des chimères, ce sont des anthropomorphes, ils sont mixtes, ils sont mi-humains, mi-animaux, mi-hommes bi-bêtes, comme le thème du dernier ouvrage de Philippe Rousseau.
Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant vos explorations des préhistoires, Jean-Michel Genest, et puis on va voyager aussi avec vous pour essayer de comprendre ces représentations matérielles, immatérielles des humanités du passé. Ce sera juste après ça. Rolling Stone par Bob Dylan dans la science CQFD sur France Culture. C'était le choix musical de notre invité, l'archéologue du paléolithique Jean-Michel Genest. Elle vous va bien cette chanson, Jean-Michel Genest, parce que vous avez roulé votre bosse un peu aux quatre coins du monde et vous avez beaucoup travaillé sur les cailloux, donc ça tombe bien. Parlons justement de ces voyages et de ces expériences aussi que vous avez réalisées dans des sites aussi, dans des environnements aussi divers que ceux du Canada, de l'Australie, de la Chine, du Botswana. Pourquoi avoir eu ce besoin, alors qu'il y a déjà beaucoup de matière à travailler sous nos latitudes, ce besoin d'aller vous confronter à d'autres cultures et à d'autres représentations datant du passé ailleurs dans le monde?
C'est probablement une attitude ambitieuse mais et désireuse d'expérimenter la diversité, de faire le tour du champ des possibles dans un certain nombre de domaines. Tantôt la technologie lithique, parce que ce fut le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des enquêtes sur des objets réalisés en silex à partir de carrières de pierre pour fabriquer des outils et qui servent aujourd'hui à traiter le palmier sagou et obtenir de la fécule et des outils dont on découvre que les carrières sont organisées, propriété de clans, entre différents clans, que chaque clan donne un nom différent, une histoire et une origine différente à chaque bloc de roche, que ces objets sont toujours taillés par des artisans, par des chefs de clan qui savent encore tailler la roche dure. Et on a, ce sont des approches extrêmement émouvantes de voir fabriquer des objets qui servent. Et que par ailleurs, ces objets sont produits par les hommes, mais exclusivement utilisés par les femmes. Donc ce sont ces variabilités-là, cette vie qu'il y a dans les productions lithiques faites par d'autres, en d'autres espaces, qui est susceptible d'éclairer, non pas ce qui peut nous servir à comprendre, mais à éviter les pièges et à mesurer notre absence d'information, notre perte de pied la plupart du temps quand nous essayons de proposer des systèmes interprétatifs.
Vous parlez de pièges, vous pensez à quoi comme pièges, par exemple, qui sont tendus aux préhistoriens que vous êtes?
Écoutez, aller facilement à une interprétation simple, à faire du comparatisme ethnographique courant, à comparer avec ce qui nous paraît simplement accessible, alors qu'en fait, il y a une multitude d'explications, de raisons et de causes de variabilité qui nous échappent et qui nous échapperont certainement. Et là, ce qui reste, c'est, outre quelques éléments d'information qui établissent une altérité profonde entre des populations du passé et du présent, la manière dont nous pouvons les regarder, les interpréter, les étudier les produits de leur culture, une grande modestie par rapport à ce que nous sommes capables de faire avec tous les outils que nous avons, et y compris toutes les protections contre la facilité ou contre l'interprétation rapide que nous avons. Nous avons énormément de biais. Nous devons, on le dit souvent, nous devons d'abord désapprendre avant de devenir archéologue.
Il y a un lieu où vous avez pas mal désappris, je crois, et en tout cas dans la joie, c'est l'Australie, Jean-Michel Genest, en terre d'Arnhem notamment. Vous parliez de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là on parle d'endroits où vivent des aborigènes et où finalement, d'une certaine façon, le passé mythique continue de s'écrire au présent. Et pour nous, ça c'est en tant qu'occidentaux, c'est très compliqué à comprendre comment en terre d'Arnhem vous êtes rentré justement en contact de ces personnes aborigènes et comment avez-vous travaillé à la compréhension, du moins à l'étude de ces représentations qui pour certaines d'entre elles étaient aussi vieilles que celles de la grotte Chauvet, voire plus vieilles.
Tout d'abord, j'y suis allé sur invitation, et c'est important, c'est-à-dire qu'il y avait un désir. Il y avait un désir de travailler avec des personnes ou des équipes qui travaillaient en Europe et qui avaient déjà des résultats travaillant sur la lecture de l'art. Et il y a eu ensuite la découverte d'une tribu, d'un clan, d'un langage, de groupe de gens, au sens de personnes variables, qui vivent encore sur des sites et qui pratiquent de l'art ou qui, il y a peu de temps encore, pratiquaient l'art. Et à partir de là, même si ce n'était pas les périodes aussi anciennes que les sites paléolithiques que j'étudiais habituellement, nous avons été confrontés à une lecture d'une autre relation à l'art, un art qui est intégré à un dispositif mythologique qui prend tout l'espace, tout le territoire, et qui s'incarne à travers les populations vivantes, mais dans le paysage, dans la roche. C'est-à-dire que la paroi rocheuse est l'endroit où vivent la plupart des êtres, des esprits, animaux et humains de ce groupe, dans la paroi, à travers les figures qui sont portées dessus. Au point que la paroi elle-même est exploitée en tant que matière première pour fabriquer des outils, et de préférence quand elle porte une partie d'un dessin, d'une œuvre, d'une représentation. Ces œuvres, donc, sont soumises à détérioration régulière. Et ce que nous avons découvert dans ce système de production, qui a fonctionné pendant une quarantaine de milliers d'années à Nahualagavarmang, sur le plateau de Ternanem, donc pas sur la côte, mais vraiment sur le plateau qui est relativement inaccessible aujourd'hui encore, ça a été que le site a été lui-même transformé. C'est-à-dire que il a été taillé, sculpté, réellement transformé au point de devenir une espèce de petite pyramide, un tumulus. Donc c'est des centaines de tonnes de roches peintes qui ont été transformées, déplacées, réaménagées, réorganisées. Donc c'est un lieu de vie et c'est un dispositif complexe. L'art et la peinture ne tenant qu'une petite place, mais par contre extrêmement présente dans les mentalités, dans la mémoire, dans les souvenirs de ces personnes qui effectivement vivent leur culture. En tout cas, c'est les dernières personnes qui vivaient leur culture quasiment au quotidien, puisque nos interlocuteurs présents sur le site, avec qui nous fouillons tous les jours de manière à nous décoder et nous permettre d'interpréter ce que nous voyons, quand ils étaient face à des objets d'une période trop ancienne qu'ils n'avaient pas connue, nous disaient, les esprits nous disent que il s'agit cela. Ou bien disant, ah, mais j'ai rêvé la nuit dernière et mon oncle m'a dit que cet objet, cette hache, servait à ceci ou à cela. Et là, on rentre dans un autre univers où effectivement, le temps présent, l'environnement est partie prenante de l'archéologie qui se pratique. On n'est pas loin de ça aujourd'hui. Il nous faudrait pas grand-chose pour le pratiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'archéologues de NINRA peuvent dire la même chose.
Oui. Jean-Michel Genest, qui est particulièrement intéressant aussi dans cette expérience que vous avez faite avec les aborigènes de la Terre d'Arnhem, c'est que vous les avez invités ensuite en retour à venir à Lascaux et à porter un regard à eux sur ces représentations pariétales qui sont pour nous encore largement un grand point d'interrogation. Alors quels ont été leurs regards sur ces peintures de Lascaux qui datent d'il y a 18 000 ans?
C'est un point très délicat dont je parle avec beaucoup de réserve et de prudence. D'abord, j'ai toujours été, ayant été invité, rendu l'appareil au clan leader de Nouvelle-Guinée ou d'Australie en invitant en retour des personnes dans les lieux où je vivais et pour observer l'archéologie que j'étais à même de pratiquer tous les jours. Et autant ils m'ont donné des regards, et ils m'ont fait partager des regards étranges sur mes pratiques expérimentales, en souriant de ce que je savais faire ou que j'avais appris à faire, mais qui n'avait aucune signification pour eux. Autant j'ai eu du mal à les entraîner dans le milieu souterrain et à découvrir les grottes ornées, mais une fois cette chose faite, réussie au bout de beaucoup d'essais, de beaucoup de convictions, et je me plais à répéter que j'étais un jeune archéologue stupide. J'étais un jeune con à l'époque, en ce sens que quand on me posait une question sur la valeur spirituelle des œuvres, je ne répondais pas, et quand on me disait « mais on rentre dans la grotte, si tu nous assures que tu maîtrises les esprits qui sont là », et je disais « je suis qu'un archéologue », jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait effectivement que je cède, que cette dureté apparente se fissure, que j'ai dit « oui, bien entendu, je suis effectivement un passeur et je peux vous introduire à l'intérieur, même si je ne connaissais pas ces mythes et autres. Et là, une fois rentré devant des peintures qui étaient les peintures de Lascaux, ils n'en ont retenu que la structure topographique, l'espace, et sont rentrés dans des récits mythologiques, typiquement australiens, devant des chevaux, des mammouths, des bisons, enfin des bisons et des rennes. Voilà. Donc il y a bien une structure qui aurait certainement plu à André Leroy-Gourhan de dire c'est la structure qui fonctionne encore et pas le détail du récit qui est visualisé. Mais je veux pas en retenir plus et je suis vraiment gêné d'en parler parce que signifie ce que je suis en train de raconter là par rapport à cette expérience? Quelle a été leur expérience réelle? Quel voyage dans le temps ont-ils fait? Moi, je savais qu'il y avait un voyage dans le temps, eux, pour avoir vécu dans leurs sites anciens qui ont aussi 35, 45 000 ans, 40 000 ans pour les plus anciennes peintures. Ils les considèrent comme un continuum de temps, comme un seul et unique objet qui est mythographique.
J'aimerais, Jean-Michel Jeunesse, qu'on vous entende autrement que dans les réponses que vous nous donnez généreusement depuis le début de cette émission. On va écouter un extrait d'un article que vous avez signé dans la revue Actualité Nouvelle-Aquitaine, paru en 2024. L'article s'intitule « Arrêt sur image » et la lecture vous est faite par Joseph Schlegel.
Ce que je recherche depuis toujours, en étudiant les cultures matérielles paléolithiques, c'est une proximité la plus authentique avec l'humain. Bifurquer vers les expressions graphiques, c'est accéder non plus uniquement à la culture technique et aux modalités d'action sur le monde qui lui sont attachées, mais à l'univers intérieur, aux formes imaginaires et aux croyances des individus et sociétés qui ont réalisé les œuvres paléolithiques, des œuvres sur les parois des grottes et abris, mais aussi des ensembles si cohérents et émouvants d'artefacts et parures qui ont accompagné l'existence des vivants et l'ont prolongé dans les sépultures. Avec du recul, je me demande si mon intérêt à rechercher, dans une primordiale relation entre les humains et les autres vivants, une des sources possibles du caractère exclusivement animalier des premières expressions de l'art paléolithique, n'est pas né des relations interspécifiques vécues dans mon enfance. Cette attention intellectuelle et sensible envers l'animal est omniprésente dans mes recherches sur l'origine des premières formes de figuration graphique au paléolithique. C'est quand on prend conscience que le passé est engendré et interprété par le présent, et que s'imprime dans la conscience le sentiment d'une continuité que nous appelons temps, que l'on devient à jamais archéologue ou préhistorien.
Oui, très, très parlant, cet extrait d'article que vous nous avez envoyé avant cette émission, Jean-Michel Jeunesse. Il y a deux choses. Déjà, expérimenter l'altérité, vous l'avez dit, vous l'avez répété depuis le début de cette émission, c'est le rôle du préhistorien. Et puis il y a cette idée aussi de retrouver l'enfance de l'humanité, retrouver votre enfance aussi à travers cette proximité avec les animaux. Alors, on arrive à la fin de notre discussion, déjà, malheureusement, Jean-Michel Jeunesse, mais... Une dernière question qui pourrait faire l'objet d'une autre émission, c'est finalement, c'est quoi être préhistorien? C'est quoi la préhistoire pour vous aujourd'hui?
C'est être capable de faire un pont entre le passé et le présent. Et se rendre compte que c'est la totalité de nos moyens, de nos capacités intellectuelles qui sont mobilisées pour lire le passé, pour le déchiffrer, sachant qu'il nous en manque énormément et que nous sommes contraints par la nature des objets conservés, surtout les objets, que l'immatériel nous reste plus ou moins inaccessible, mais malgré tout, il est infini, crâne derrière, et que surtout ce passé, il porte toujours une direction et une orientation vers un futur.
Merci à beaucoup à vous, Jean-Michel Jeunesse, d'avoir accepté de venir nous parler de vos préhistoires. Si je devais recommander un de vos livres, bien sûr, c'est ce « Si loin, si près pour en finir avec la préhistoire » coécrit avec Boris Valentin, paru aux éditions Flammarion. Encore mille merci d'avoir accepté notre invitation. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo qui s'en vient avec sa chronique « Avec science ».
« Les nuages sont-ils des réservoirs à pesticides? Les pesticides, comme les polluants de manière générale, se retrouvent surtout dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. C'est logique, ils sont pulvérisés sur les cultures, s'infiltrent dans les sols et suivent le cycle de l'eau. C'est pour cela que depuis une vingtaine d'années, les scientifiques s'intéressent aussi à d'autres milieux. La pluie, la neige ou même l'air où ces substances voyagent accrochées aux poussières, ce sont les fameux aérosols. Et partout où l'on cherche les pesticides, eh bien on les trouve. Mais entre l'air et l'eau, il reste un milieu encore mal connu, une masse en suspension longtemps restée insaisissable, ce sont les nuages. Angelica Bianco est chercheuse au laboratoire de météorologie physique et à l'Observatoire de la physique du globe de Clermont-Ferrand.
Les nuages sont un comportement atmosphérique qui est un peu délaissé parce que c'est très difficile de les attraper. Déjà, les nuages sont à caractère événementiel, ça veut dire qu'elles ne sont pas toujours présentes. Le Puy de Dôme est un site particulier pour l'étude des nuages parce qu'on a une forte occurrence qui est à un niveau de 40% sur l'année. En plus, il n'y a pas de collecteur automatique pour prélever les nuages. Quand on fait des études sur les gaz ou sur les aérosols, on a des collecteurs automatiques, ça veut dire que les échantillons sont faits par la machine. Pour les nuages, on n'a pas ça. On a besoin d'une personne qui s'occupe de la collecte, qui monte sur site, qui déploie un collecteur, qui collecte les nuages et qui traite l'échantillon ensuite dans le plus bref délai possible.
Alors, personne ne dit qu'il ne fait pas beau en Auvergne, non seulement que le Puy-de-Dôme a souvent la tête dans les nuages. Et c'est idéal pour étudier cette question, d'autant qu'être en hauteur permet de ne pas être influencé par la pollution locale. C'est donc la combinaison de ce site privilégié, de l'expertise des scientifiques de l'Observatoire et de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand qui a permis de réaliser cette nouvelle étude et la première du genre parue dans Environmental Science and Technology. Et pour attraper ces nuages, on utilise un collecteur de nuages. C'est une sorte de boîte munie d'un petit aspirateur qui va capter l'eau contenue dans le nuage pendant au maximum 2 heures. Pas plus longtemps, sinon l'échantillon ne correspond plus à la même masse d'air. Et on obtient ainsi du nuage liquide. Plutôt que de mettre au point eux-mêmes une méthode d'analyse, ces scientifiques ont fait appel à un laboratoire certifié. Cela permet de gagner un temps précieux, d'éviter de gaspiller les échantillons pour des tests techniques et d'utiliser directement une procédure robuste capable de détecter des traces dans de très petits volumes. Résultat, sur 446 substances testées, 32 pesticides ont été retrouvés dans ces nuages auvergnats.
Alors, il y a différents pesticides, il y a des herbicides, des fongicides, des insecticides, avec des concentrations qui varient pour chaque échantillon. On a des échantillons plus concentrés et des moins concentrés. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on trouve aussi des produits de transformation de ces pesticides dans l'environnement. Ce qui signifie qu'on ne trouve pas la molécule primaire comme elle est utilisée pour l'épandage, mais on trouve des produits de transformation qui sont faits à cause de la réactivité atmosphérique ou autre. Et en fait, notre étude, comme l'étude de Meyer sur les particules atmosphériques, sur les aérosols, met en évidence qu'il n'y a pas que des pesticides utilisés en Europe, mais aussi des pesticides qui sont interdits depuis longtemps et qui peuvent venir des pays où ils sont encore utilisés. Du coup, on a vraiment une évidence du transport sur de longues distances, sur des milliers de kilomètres. Alors, je ne suis pas tout à fait étonnée de retrouver des pesticides. Je suis étonnée d'en trouver dans tous les échantillons. Je m'attendais quand même à avoir des nuages avec une concentration de pesticides sous la limite de détection. Du coup, ça veut dire zéro. Alors que là, sur 6 échantillons, on n'en a pas.
Les 6 échantillons sont positifs, donc 6 nuages portent des traces de pesticides. C'est peu en termes de puissance statistique et ça tient aux difficultés de capture des nuages. Avec cette étude, il est donc impossible d'affirmer que tous les nuages contiennent des polluants, ni de donner des concentrations représentatives. En revanche, cela prouve que les pesticides sont détectables et que les nuages peuvent les transporter sur de longues distances. Depuis la publication de l'étude, d'autres équipes de recherche ont contacté cette chercheuse pour reproduire cette méthodologie. L'enjeu désormais est de multiplier les sites de collecte et d'augmenter le nombre d'échantillons pour savoir si ce que l'on observe dans les nuages auvergnats se retrouve aussi ailleurs en France.
Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Et tout de suite, on retrouve comme chaque semaine depuis la rentrée sur France Culture, le fil Science inclus au fil Culture G, en partenariat ce fil Science avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. La professeure d'anthropologie génétique Evelyne Heyer poursuit son récit de l'Odyssée des humains.
Le fil Science.
Quand l'espèce humaine va-t-elle disparaître ? Tout d'abord, et c'est toujours bon de le rappeler, c'est la règle de l'évolution. toutes les espèces disparaissent, soit en s'éteignant sans laisser d'espèce fille, soit en se transformant vers une nouvelle espèce fille. Par exemple, dans l'extraordinaire saga des lignées humaines, on sait qu'il y a déjà eu des extinctions. La plus récente est celle de l'homme de Néandertal qui a disparu il y a environ 30 000 ans après avoir existé plusieurs centaines de milliers d'années. Ce n'est pas une épidémie mortelle qui les a éradiqués, ils étaient moins de 100 000 individus et ils ont disparu progressivement. Nous autres, Homo sapiens, allons bien disparaître car aucune espèce d'être vivant n'est promise à l'immortalité. Et ce ne sera pas non plus le cas de l'espèce humaine. Envisageons deux scénarios. Dans un premier cas, imaginez la catastrophe. Mais des groupes humains isolés resteraient probablement en vie, répartis sur la planète. Or, il suffit de quelques humains pour faire perdurer l'espèce. Si nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains, un chiffre qui continue d'augmenter, nous n'avons pas toujours été aussi nombreux, mais seulement une poignée de femmes et d'hommes, quelques centaines ou quelques dizaines de milliers. Dans le passé de notre espèce, une poignée a réussi à survivre presque partout à la surface du globe. L'humain a une grande capacité d'adaptation et il sera sûrement capable de survivre en cas de catastrophe majeure si celle-ci ne condamne pas la planète tout entière. L'extinction complète de l'espèce reste donc peu probable dans ce scénario catastrophe. Deuxième scénario. Un changement graduel. Dans tous les cas, nous continuons d'évoluer. Notre espèce se transforme donc au fil du temps, jusqu'à devenir suffisamment différente pour que l'on puisse caractériser une autre espèce humaine. Mais cela prend du temps. Avec 8 milliards d'êtres humains, il faudra sans doute attendre plusieurs millions d'années. Dans ce scénario, l'espèce humaine ne disparaît pas, mais se transforme progressivement en une autre espèce. Mais alors, vers quoi évoluerons-nous ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tant que scientifique, je peux vous dire que comme toute espèce vivante, les humains et les environnements dans lesquels ils vivent sont largement indissociables. Or, l'humanité exerce aujourd'hui une pression phénoménale et sûrement irréversible sur l'environnement dans lequel elle vit et dont elle se nourrit. Il s'agira donc de s'adapter au nouveau monde que nous sommes en train de façonner. À quoi nous ressemblerons dans le futur est impossible à prédire. Le moteur de l'évolution, c'est le hasard. Hasard des mutations qui apparaissent et qui, pour certaines d'entre elles, permettent de s'adapter. Ces adaptations doivent ensuite se répandre au fil des générations dans toute l'espèce. Plus l'espèce est importante numériquement, plus cela prend un grand nombre de générations. Et pour se convaincre de cela, il n'y a qu'à observer le passé. Il a fallu 7 millions d'années pour que l'évolution nous amène à l'humain moderne, depuis notre ancêtre commun avec le chimpanzé. Alors oui, nous allons disparaître, dans le sens où l'humanité future sera différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Mais cela n'est pas pour tout de suite.
Merci beaucoup Evelyne Ayer d'avoir déroulé ce fil science. On vous retrouve très prochainement dans la science CQFD. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Joseph Schlegel, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, Tom Undenstock, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Paul Guig. Vous pouvez réécouter la Science CQFD sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans l'émission et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.